Oui, salut Daniel. Vive la France! Florence est vivante, Florence est belle, Florence est grande, vive Florence! La France est belle, la France est grande, vive la France! Florence a retrouvé la France a trouvé Florence pour faire oublier le 29 mai et le chômage et l'indécence des parachutes dorés, etc., etc., et tant de choses. La presse a trouvé son héroïne, son preux chevalier au panache blanc pour faire oublier sa campagne insolente pour le louer à la Constitution et tant de choses. Et vive la presse française, bravant tous les dangers pour informer. Florence a souffert, au physique comme au moral, au-delà de ce que nous pouvons savoir et imaginer. Seuls les ex-otages peuvent comprendre, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, de nous réjouir de sa libération. Mais que son atterrissage à Villacoublay, son humour, ne serve pas de parachute d'or qui viendrait illuminer la France. Amusons-nous d'ailleurs à décomposer le nom de Florence. C'est la France qui prend l'eau. Eau dans l'œil à Gainsbourg ou eau dans l'aile, comme à l'atterrissage, enfin l'atterrissage le prochain, celui après l'euphorie. Parce que la France prend l'eau, parce qu'elle a du plomb dans l'aile, elle a besoin de héros. Et Florence tombe à point nommé. Du coup, Raffarin se refait une santé. Et aussi loin soit-il, le dernier débriefing donne son mandat positif. Et Michel Barnier, au fait, pourquoi est-il parti celui-là? Bref, Michel Barnier et son action s'intègrent avec bonheur à la nouvelle impulsion. C'est simple, la politique. Du pain et du cirque. Si le pain venait à manquer en France pour quelques ouvriers, il le trouvera en Roumanie. Quant au cirque, ce cirque, ben, il est sur toutes les chaînes. Politique Circus arrive dans votre village, ce soir à 20h, tous devant votre poste. Vous découvrirez votre nouveau numéro, le clou de la soirée et la merveilleuse, l'étincelante, l'éblouissante Florence Aubenas. Les éléphants iront bien sûr de leurs commentaires et les singes de leurs mimiques. Ne ratez pas, mesdames et messieurs, ce soir, pauvre Florence. Otage aujourd'hui des politiques, otage de ses confrères de la presse, souhaitons-lui du repos parmi ses proches. Un bon rétablissement au physique comme au moral, de bons repas, l'air, la lumière, les balades dans la nature. Si tout cela suffisait à la France pour retrouver sa splendeur d'antan, les belles valeurs qui ont fait d'elle le pays des droits humains, je rêve. Les valeurs sont cotées en bourse et la France est l'otage de la grande finance. Pauvre de nous. C'était Régine Blancard dans les Pyrénées.
À l'initiative d'Agir ici, du CCFD de Strasbourg, de Attaque Strasbourg et des Amis du Monde Diplomatique, il y aura une conférence débat organisée sur l'annulation de la dette des pays pauvres. Cette conférence aura lieu le jeudi 16 juin à 20h à l'ENA. Merci de faire passer le message. C'était Bernard de Strasbourg.
Petite info pour les costards-mauricains à propos de la Tchétchénie. Jeudi 16 juin à 20h30 au cinéma Le Citéa de Plouguenat. Ça se situe entre Loudéac et Saint-Brieuc. Projection du film de Mylène Soulois, Danse avec les ruines. Sa caméra suit pas à pas une troupe d'enfants danseurs dans Grozny dévasté. Ensuite, jeudi 23 juin, retrouvez cette même troupe en chair et en os au Carré Magique de Lannion pour un spectacle magnifique. Entrée 15 euros, vous pouvez vous renseigner auprès du Carré Magique. Voilà, on compte sur vous, la guerre est loin d'être terminée en Tchétchénie et ces gamins-là, ils sont porteurs d'un message de résistance et de dignité, il faut vraiment les soutenir. On compte sur vous, le comité Tchétchénie de Saint-Brieuc. À bientôt.
Bonjour, je suis Madame Valette, j'habite à Saint-Denis dans le 93. Mon fils a participé à toutes ces manifestations lycéennes pour le bien de l'école. Et il a été dans les dernières manifestations, donc juste après le 8 mars, dans la manifestation du 14 mars, il a été arrêté et tabassé par les CRS. Et il va passer en jugement à Bobigny. On ne sait pas encore la date, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, c'est vrai que cette manifestation du 8 mars a été après le déclencheur de toutes les violences policières vis-à-vis des lycéens. Merci pour vos émissions. À bientôt.
Je viens d'écouter l'émission de Daniel. Effectivement, ça mérite effectivement d'être décortiqué pour être sûr qu'il n'y a pas de manipulation. Mais moi, je reste quand même un peu sur ma faim parce que j'aurais... Tout le monde a parlé effectivement des jeunes des banlieues en supputant, en proposant des théories sur leurs justifications. Mais en fait, on n'en a pas entendu un seul. Alors si effectivement ils étaient plusieurs centaines, voire peut-être même un millier, Je m'étonne que, avec les moyens que vous avez, les recoupements ou autres, vous n'ayez pas pu réussir à savoir éventuellement d'où ils viennent, et surtout pouvoir en interroger un ou quelques-uns pour savoir quels étaient leurs véritables motifs. Et ça aurait quand même été très intéressant d'avoir au moins l'avis de quelqu'un qui a participé, et éventuellement qui a programmé, qui a élaboré ce genre de choses. Et je regrette que les principaux intéressés n'aient pas pu parler. Voilà. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ainsi, personne n'est parfait.
Je voulais juste réagir sur l'émission d'hier concernant donc la manifestation des étudiants et rappeler un fait qui m'avait frappé à l'époque puisque j'écoutais la radio et que la médiatisation de cette manifestation avait été largement couverte, largement faite au préalable, c'est-à-dire bien avant la manifestation, ce qui est assez rare quand même, hein, on annonce généralement très peu les manifestations. Celle-ci, mais alors celle-ci, elle a eu le droit d'être annoncée, mais nombre de fois. Et du coup, il est probable que cela ait incité certaines personnes à rejoindre les rangs de la manifestation sans avoir des intentions en vertu de celle-ci. Voilà. D'ailleurs, à Marseille, puisque je suis sur Marseille, une semaine avant, il s'était passé exactement la même chose et la manifestation des étudiants a été donc disloquée à la suite d'une agression d'une quinzaine de jeunes vis-à-vis des étudiants et ça avait permis donc à ce cortège d'être divisé en deux, ce qui avait interrompu la manifestation de fait. Salutations, bon courage, à bientôt.
Que s'est-il passé le 8 mars 2005? C'était le thème de l'émission d'hier. Vous avez été nombreux à réagir à cette émission, mais il faut bien avouer que à la fin de l'émission, ben la question restait entière. Ce qui était intéressant évidemment dans ce travail et dans cette journée, c'est ce qu'elle a produit comme on pourrait dire comme fantasme, comme élucubration, comme analyse plus ou moins douteuse à partir eh bien d'une question qui, vous le voyez dans les messages des auditeurs, eh ben, reste sans base, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé précisément. Je rappelle qu'il y a une enquête qui a été, une enquête parlementaire qui a été demandée. On ne sait pas très bien quel est son sort aujourd'hui, mais je ne pense pas que cette demande ait abouti. Mais ce qu'on a souligné hier, c'est évidemment l'apparition très très fantasmée d'un soi-disant racisme anti-blanc et encore plus fort un appel, on en a parlé longuement hier, qui a été lancé le 26 mars 2005, signé d'un nombre de personnalités prestigieuses comme Bernard Kouchner, comme Alain Finkielkraut, comme Elie Chouraqui, comme Pierre-André Taguieff, dénonçant un racisme anti-blanc, non seulement un racisme, mais une ratonnade anti-blanc qui se serait produite, qui serait apparue lors de ce 8 mars 2005. C'est pas le thème de notre émission du jour, mais on a quand même voulu conclure avec l'analyse et le regard que peut porter Esther Benbassa. Esther Benbassa, elle est historienne à l'école pratique des hautes études à Paris et je vous propose d'entendre son analyse a posteriori, calmement, de cette journée et des commentaires et de tout ce qu'elle a pu inspirer en matière évidemment de concurrence victimaire, parce que en fait c'est bel et bien de ça dont il s'agit, d'une concurrence de victimaire, d'une compétition des victimes, ce qui fonde évidemment le communautarisme, et tout se passe comme si ceux qui font ces commentaires ressemblaient à des pompiers qui éteindraient un incendie avec du pétrole. Esther Benbassa.
C'est carrément les gueux contre les nantis, parce que c'est vraiment ce qu'on a vu récemment lors du non. On a vu la fracture quand même entre les élites et le peuple. Hein. Et là, à l'intérieur de cette partie que nous pourrions appeler le peuple, et je crois qu'il y a ces gens qui sont des laissés pour compte de la société. Ils n'ont aucun avenir. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Mais je crois qu'il faut aller plus loin et se demander si tout cela n'est pas une bombe à retardement. Et c'est la pétition qui a répondu à ces débordements et qui était qui me semblait assez stupide.
La pétition dont Radio Shalom et la Chomer HaTzair sont à l'initiative.
Oui, je ne crois pas que cette pétition stigmatise. Elle voulait dire peut-être, nous sommes là, nous aussi, nous nous organisons. Monsieur Taguieff, Monsieur Finkielkraut sont des gens qui vivent sous la terreur de l'antisémitisme et c'est pas des intellectuels neutres qui ont signé cette pétition. Ce sont deux personnalités qui ont influencé énormément le groupe juif en France et qui ont aidé avec certaines institutions à semer la peur. Et se placer de cette façon-là, enfin du côté des blancs, de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui décident de l'intégration. Enfin, pour moi, d'abord juive et ensuite historienne, c'était plutôt une réaction, me semble-t-il, davantage contre la pétition des indigènes de la République et aussi contre Dieudonné. Parce que actuellement en France, nous sommes dans une sorte de combat entre divers camps. Chacun se met dans un camp et essaye de se prémunir contre un autre camp, comme si le monde était divisé entre camps ennemis. Et là, c'était une réaction un peu primaire, je crois. Et c'était une sorte, voilà, une sorte de d'autodéfense, si les blancs sont attaqués, demain ce sera notre tour, nous défendons les blancs, mais la solution ce n'est pas une pétition, c'est tout un travail à faire d'intégration, d'éducation, de mobilité sociale, enfin tout cela peut paraître un peu bateau, mais je crois que la seule riposte est celle-là, et pas une pétition impressionniste, émotionnelle.
L'emploi du mot ratonnade anti-blanc,
oui, tout à fait chargé de sens, parce que ce que je connais de l'étymologie du mot de raton, c'est connoté de sens, ce sont vraiment les attaques anti-arabo-musulmans. Et là, retourner ce mot, l'approprier, était une façon, voilà, nous sommes nous aussi victimes. Là, je crois que tout le monde est dans la compétition victimaire, dans ses mauvais goûts. Mais ça m'a choquée. C'est aussi une spécificité des minorités de se mettre toujours avec le groupe dominant. Et les Juifs, tout au long du 19e siècle, étaient obligés de se mettre dans les pays colonisés du côté des colons parce que ils attendaient des colonisateurs leur émancipation. Les blancs, c'est ça, c'est le groupe fort, être toujours du groupe fort, et c'est en cela que je crois qu'ils ont eu une le Shomer, etc., les institutions juives qui ont signé, qui ont appelé à signer, ont eu une attitude communautariste. Vous voyez ? Alors là, c'était vraiment un danger. Et en plus, je vais vous dire, de l'autre côté, il y a la même compétition victimaire avec la pétition des indigènes de la République. Mais la continuité dans la victimité n'a pas aidé les Juifs à construire un judaïsme positif. Et je crains que ceux qui se nomment les indigènes de la République, dans la victimité et la victimisation, n'iront pas loin non plus, parce qu'on ne construit pas un avenir avec les stigmates du passé.
Peut-être aujourd'hui être victime en France, ça peut rapporter gros d'une certaine manière, non ?
Oui, parce que peut-être aussi que les politiques ne répondent, ont remplacé plutôt la politique par la compassion. C'est la seule réponse qu'ils ont, parce qu'elle est facile.
Dramatiser, minimiser, manipuler, tel est le sort de l'événement, de tout événement. Mais quelle est la version qui finit par s'imposer ? Comment une interprétation s'impose et devient vérité. Et d'ailleurs, est-ce que la vérité est toujours la vérité? On sait bien que un événement dont Esther Benbassa a parlé, ce 8 mars 2005, eh bien sûr, subit une suite de lectures, d'interprétations, de constructions, de reconstructions avec le temps. Je dis ça parce qu'on va parler de mai 68. Y a-t-il un rapport entre mai 68 et ce 8 mars dernier, un rapport lointain? On pourra évidemment en trouver. Mais aujourd'hui, on reçoit une historienne américaine qui s'appelle Christine Ross et qui publie aux éditions Complexe un livre tout à fait singulier sur mai 68. Je veux dire, encore un bouquin sur mai 68. Oui, mais attendez, restez jusqu'au bout parce que c'est particulièrement passionnant. D'abord le titre du bouquin, mai 68 et ses vies ultérieures. Et comment un événement devient captif des représentations successives. Comment un événement comme mai 68, dont on croit avoir tout dit, je sais pas, voilà, on n'en parle plus, c'est classé, c'est en haut de l'armoire, voilà, et puis un espèce de bibelot aboli. Comment mai 68 est prisonnier des interprétations, des représentations successives? Quels sont les auteurs de ces représentations? Et y a-t-il autre chose à dire sur mai 68 que ce que l'on a dit sur mai 68? C'est évidemment la question et c'est la réponse. Une réponse, c'est pas une seule réponse. C'est une suite de propositions et de réflexions très riches que propose cette historienne américaine. C'est jusqu'à 18h et c'est là-bas que j'y suis.
Lundi 6 mai 68, la deuxième journée d'émeute.
Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent!
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Christine Ross, mai 68 et ses vies ultérieures.
Flight number 2, arriving from New York.
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer et par conséquent, ce refus est évidemment un refus de violence. Donc, si vous voulez, on peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Et pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en marche.
Et ils sont descendus dans la rue. Ils sont descendus dans la rue. Mai 68, c'était la voix de Jean-Paul Sartre, le 13 mai 1968. La violence vue par Jean-Paul Sartre, évidemment, des commentaires et qui à l'époque ont eu un écho considérable. Aujourd'hui, on reçoit Christine Ross, donc cette historienne américaine, qui donne de mai 68 une version tout à fait différente, qui apporte sur ces événements une lumière tout à fait singulière. Est-ce qu'elle a refait 68? En tout cas, il faut faire attention aux historiens américains. Souvenez-vous du cas de l'historien Paxton. On va l'évoquer, bien évidemment. On va pas manquer de ne pas l'évoquer. Et C'est que effectivement l'histoire est reconstruite, déconstruite, mais par qui et au profit de quoi? Selon les nécessités du présent, avait répondu quelqu'un, mais quelles sont les nécessités et quels sont les nécessiteux? Des questions jusqu'à 18h, là-bas, mai 68.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
25 ans après, à part ces anniversaires médiatiques, que reste-t-il de mai 68?
Aujourd'hui, on ne voit plus de séquelles de 68, puisque effectivement, 68 s'est dissous dans la société, donc 68 a gagné au niveau de la société, politiquement, 68 a complètement perdu.
Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Christine, comment on dit? Christine Ross?
Ross?
Oui.
Ross?
Oui.
En anglais, en français, comme on veut. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Vous êtes, vous enseignez la littérature à l'Université de New York en ce moment.
Oui.
Et vous vous intéressez surtout beaucoup à nous, beaucoup au...
À la littérature française.
À la littérature française. À l'histoire. À l'histoire. Et là, vous sortez un bouquin qui va faire grand bruit, j'espère qu'il va faire grand bruit, sur mai 68. Il faut faire très très attention aux historiens américains quand ils commencent à se pencher sur l'histoire française. Parce que ça peut faire des dégâts très longs. Évidemment, je pense à Paxton avec son histoire de Vichy. Je ne sais pas si vous êtes à mai 68, ce que Paxton est à Vichy. Mais en tous les cas, là, vous donnez votre regard, votre analyse et puis votre travail sur mai 68. Aujourd'hui, c'est une affaire classée. Qu'est-ce que mai 68? Eh ben, ça a été une révolution des mœurs, ça a été une révolution culturelle, libertaire, sexuelle, et qui a engendré l'individualisme, qui a été le lit du libéralisme, libertaire, libéral. Mais sinon, il s'est à peu près rien passé. Il ne s'est rien passé, somme toute. Ça s'est passé ailleurs, ça s'est passé à Prague. Vous faites allusion à... Enfin, un de vos interlocuteurs vous dit, mais il s'est rien passé aux 68, sauf Prague. C'est très important. Et puis, voilà, la formule a été donnée un beau jour par Serge Julie, le directeur du journal Libération. Ras le mai, c'est-à-dire ras le mai, ne parlons plus de ça, tournons la page de notre folle jeunesse, de notre belle jeunesse, nous appartenons au wouzbou de mai 68, la liste est donnée une bonne fois pour toutes dans ce fameux ouvrage qui s'appelle Génération, et puis voilà, et tournons la page. Or, vous la rouvrez depuis votre lointaine Amérique, vous rouvrez la page et vous nous dites ben ça s'est pas vraiment passé comme ça. Du moins vous donnez une autre lecture et vous dites par exemple mai 68 a été le plus grand mouvement de masse de l'histoire de France, la grève la plus importante de l'histoire du mouvement ouvrier français et l'unique insurrection générale qu'aient connue les pays occidentaux surdéveloppés depuis la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, on avait un tout petit peu oublié, et ces messieurs autorisés, enfin autoproclamés représentants de mai 68 ont un peu oublié les aspects sociaux, politiques et surtout... Ce que vous soulignez presque à toutes les pages de votre bouquin, c'est cette espèce de grand élan pour l'égalité, égalitariste de mai 68.
Oui, c'est ça. C'est surtout l'immensité de l'événement qui a été réduite. Surtout après 75, c'est tous les efforts visent à réduire ou bien à aplatir l'événement. Et ce que je voulais faire dans le bouquin, c'était de tracer un peu l'histoire
de ces formules de banalisation ou de ces efforts de réduire un événement. C'est un peu la question de l'échelle. Vous avez, comme vous avez dit, la grève la plus générale de l'histoire de la France. Et vous commencez avec un événement de cette immensité. Et comment est-ce qu'on arrive, 20, 30 ans après, à ces petites formules, à cette doxa, où on n'a que quelques mots, quelques expressions, quelques petits récits, quelques images, qui sont tous des façons d'oublier ce qui est arrivé. Alors, je me suis intéressée moins à ce qui s'est passé en mai qu'à ce jeu de mémoire et d'oubli et la façon dont l'événement devient captif des représentations successives.
Mai 68, mai 69, ce n'était qu'un combat, il fallait continuer le début. L'idée d'arrêter ne nous serait même pas venue. Par contre, se posait la question de passer d'agitateur à révolutionnaire professionnel.
Travailleurs de Renault-Flin, les militants de la Ligue communiste vous proposent de tenir un meeting avec eux. Camarades, sans aucune façon, par les élections, on ne parviendra à aboutir ce pourquoi nous militons tous, à savoir un régime socialiste où les travailleurs permettraient de meilleures conditions de vie que dans le régime actuel. Pour nous, il s'agissait de montrer l'existence d'une force politique cohérente. La voix des militants révolutionnaires qui, en mai 68, ont ébranlé le régime, ont ébranlé l'État fort.
Réduit mai 68 à quelques leaders. Bon, ça, je crois que c'est très dangereux, parce qu'heureusement, mai 68, c'était pas quelques leaders. Y compris parfois des leaders qui n'ont rien fait. Mais rien du tout. Je veux dire, moi, je veux pas jouer aux combattants, en plus, je hors de ça, surtout ceux qui font plus rien, mais ceux qui aujourd'hui, pour défendre leur salade, utilisent leur titre d'ancien combattant, je veux dire, moi, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, je n'ai aucun souvenir.
Alain Krivine.
Leur activité en mai 68, ils ont dû y participer comme tout le monde, mais rien. Enfin bon, là aussi, il y a une supercherie historique, moi, vraiment.
Je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce qu'écrivait notre journal Avant-Garde Jeunesse sous la plume de monsieur Yves Salès, dont le pseudonyme à l'époque était Yves Lenormand. Aujourd'hui, Yves Salès, il est au cabinet de monsieur Guesso,
Henri Weber,
ministre des Transports. Alors, il écrivait en février 68, il faut être aveugle pour ne pas voir tous les mouvements sectoriels et locaux, sporadiques, violents, déclenchés un peu partout. Le Mans, Mulhouse, Nantes ne sont pas des accidents, ils sont les symptômes les plus nets d'un mouvement national profond, diffus et qui se cherche. Un mouvement national profond, diffus et qui se cherche. Ceci en février 68. En mai 68, ce mouvement s'était trouvé.
Mmh. Alors, vous commencez par replacer mai 68 dans un contexte évidemment historique. C'est-à-dire que vous remontez à l'Algérie. La guerre d'Algérie, vous évoquez assez longuement le 17 octobre 61 pour replacer cette génération qui n'est évidemment, c'est pas parce que les médias n'avaient pas vu venir les choses que les choses ne venaient pas.
Oui, la grande prélude était la fin de la guerre d'Algérie et je crois qu'on avait intérêt un peu à oublier ce contexte pour arriver à une histoire, on connaît le cliché que c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Mais je voulais montrer qu'en fait, il y avait cette histoire de la violence associée à ce que faisait l'État au moment de la fin de la guerre. C'était ça le contexte où les gens commençaient à se politiser, à travers la question du colonialisme, de la décolonisation.
Mmh. Le tiers-mondisme.
Oui, le tiers-mondisme. Et on peut voir, et c'est à travers l'effort qui commençait aux années 80 de démolir le tiers-mondisme qu'on peut voir son importance a priori.
Oui, d'accord. Ouais. Vous parlez par exemple du bouquin de Pascal Bruckner, le sanglot de l'homme blanc.
Oui, de Jacques Julliard. Il y avait aussi un grand débat qui a été lancé avec les Médecins sans frontières. Et ce désir qu'on avait de changer, de faire entrer une nouvelle régime de représentation du tiers monde et de changer ce qu'a été quand même un rapport entre les militants français, les militants anticolonialistes, un rapport d'une certaine respect, d'égalité, des gens qui n'ont pas travaillé ensemble exactement, mais un peu, et l'espèce d'ouverture qui a été faite par le succès des guerres anticoloniales. Ça, c'était l'arrière-fond de 68.
Et avec une solidarité des milieux étudiants, avec les mouvements de libération nationale.
Oui.
Et, notamment avec le Vietnam, par exemple.
Oui. Il y a une très belle phrase de Sartre qui disait à l'époque que c'était la lutte vietnamienne contre les États-Unis qui a ouvert le champ du possible. Et je voulais un peu évoquer cette ouverture. Et aussi, on peut le voir au niveau de la lecture de ce que les gens lisaient à l'époque. C'était surtout la petite collection Maspero, qui était les traductions qui venaient du tiers-monde et des mouvements de libération nationale comme les gens comme Malcolm X et Mao et Fanon et Cabral. Ça, c'était la lecture de base des militants français.
Vous parlez assez longuement de la librairie de François Maspero, La Joie de Lire, qui a été, dans les années 60, fin 50 déjà, un des foyers, l'une des sources de mai 68.
Oui, c'était à la fois une refuge contre la police, littéralement, et c'était aussi le lieu où on pouvait trouver de petites revues éphémères ou les revues qui ont été interdites par l'État. Et c'était aussi un lieu de rencontre. C'est là où on pouvait rencontrer des gens des autres groupuscules politiques ou bien les gens de l'Afrique, de l'Asie, les gens qui un lieu de rencontre de toutes les tendances de la gauche.
Oui, Gilles Schneider.
Oui, Jacques Pauli, vous m'entendez?
Oui.
Eh bien, moi, je me trouve toujours au coin de la rue des Écoles et du boulevard Saint-Michel. Et toujours face à face, je vois des jeunes manifestants qui ont pris des couvercles de poubelles.
Mai 68 à la radio, mai 68 partout, et mai 68 oublié, enseveli, enfoui sous les commémorations, les clichés et le discours de ceux qui ont inventé un discours sur mai 68. C'est au moins ce que pense Christine Ross, à savoir que cet événement mérite mieux que la place qu'il occupe aujourd'hui. En 35 ans, dit-elle, la mémoire de mai 68 a été ensevelie sous les commémorations, réduite à la libération des mœurs, alors qu'elle fut sans doute l'un des plus grands mouvements sociaux de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la plus importante contestation de l'ordre social existant. Voilà, cette historienne américaine qui nous regarde et qui regarde notre histoire. Il y a cette tendance de la gauche au tiers-mondisme, et puis il y a l'autre tendance de la gauche quand même à la place de l'ouvrier ou du monde ouvrier.
Oui.
Et vous rappelez dans votre bouquin à plusieurs reprises cette volonté du mouvement de 68, d'un rapprochement entre les étudiants, ce qu'on a appelé les étudiants, là aussi c'est très réducteur, parce qu'il n'y avait pas que des étudiants à la Sorbonne, évidemment, comme on sait, mais de cette volonté de faire tomber les barrières, toutes sortes de barrières d'ailleurs, mais notamment celle entre le monde étudiant, déclencheur
vous allez me dire si c'est ce que vous pensez, déclencheur de ce mouvement avec le monde ouvrier. Et contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rencontre, ça n'a pas été possible, les étudiants appartenaient à la classe moyenne et avaient des aspirations de classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont modernisé la bourgeoisie, et puis voilà, une bonne fois pour toutes, on est passé d'une bourgeoisie autoritaire, de Gaulle et la figure, à une bourgeoisie plus sympathique, plus cool, plus hédoniste, dont Giscard allait être l'initiateur, et puis voilà. Mais en tout cas, la rencontre n'a pas eu lieu. Or, vous dites, il y a eu rencontre, notamment hors de Paris, dans un certain nombre de villes, la rencontre a eu lieu, et la volonté de rencontre a eu lieu.
Oui, c'est ça. Et je crois que on avait l'intérêt, après 68, d'oublier ce qui était pour moi la grande particularité, la singularité française, qui était ce lien, ou bien le désir d'un lien, ou bien l'aspiration à un lien entre la contestation intellectuelle et le monde ouvrier, la lutte ouvrière. Et c'est ce lien qui existait, comme vous dites, qui faisait partie de ce qu'on faisait à Caen, par exemple, ou à Nantes, dans toutes les organisations qui a nécessité des déplacements physiques hors du quartier latin, par exemple, ou dans les organisations contre la guerre au Vietnam, ou contre à la fin de la guerre d'Algérie, les gens qui se déplaçaient pour aller vers les foyers immigrés ou bien les quartiers ouvriers. Et c'est cette espèce d'organisation qui se faisait en dehors du Parti communiste. Mmh. Et c'est où on peut voir une vraie connexion ou un lien qui s'établit entre le monde ouvrier et le monde étudiant. Alors, si on oublie ça, on arrive à cette image d'une vague image romantique d'une crise de génération de fils contre père ou bien de montée de sève adolescente. C'est pour ça que je voulais surtout souligner les pratiques qui se faisait où on pourrait voir, à vrai dire, ce lien s'établit.
C'est important de ce qu'on raconte, enfin, que ce que vous racontez là, c'est les effets, ce que vous appelez les effets dépolitisants. Mmh. Les effets dépolitisants. C'est-à-dire que si on s'en tient à la version officielle, de mai 68, c'est décourageant pour les plus jeunes. C'est décourageant pour les plus jeunes. La dépolitisation est réussie.
Oui.
Tout se vaut, tout est vu, tout est vain.
Tout est fini.
Tout est fini.
La dernière génération.
Voilà. Ouais. Voilà. Après nous, le déluge. Il n'y a même plus de déluge, il n'y a plus rien. Là, c'est terminé.
Oui.
Vous n'avez plus aucune chance. Il n'y a pas d'alternative. Mm-hmm. Et en fait, ceux qui ont imposé, selon vous, cette vision de l'histoire de 68, ce sont les acteurs eux-mêmes.
Oui.
Hein, c'est les acteurs, enfin, autoproclamés. Et vous avez toute une série, évidemment, de noms qu'on connaît tous, puisqu'ils sont omniprésents,
oui.
qui ont construit cette version, et oui. qui ont confisqué, en fait, une histoire, selon vous.
Oui, c'est une vraie confiscation, et c'est fait, si on revient encore à cette question de l'échelle de l'événement, on prend un événement très immense, et on le réduit à soi-même. On se positionne comme acteur ou comme personnage principal dans son propre roman de formation. Alors, tout ça, c'était ma découverte spirituelle, c'était tout ça, c'est mon histoire à moi. Sur fond de barricade, moi, je faisais cette crise existentielle. Et comme ça, on a personnalisé et individualisé une histoire, et je veux dire qu'il y a des formes très très spécifiques du genre de récit qui se produisaient surtout entre 70 et 80, entre le 10e et le 20e anniversaire de mai. On peut voir plusieurs fois le même récit de « bon, j'étais aveugle, mais maintenant je vois très très clairement, je vois avec une grande lucidité, ce que je ne voyais pas à l'époque, parce que j'étais dupée ou bien je me suis trompée. Et maintenant, c'est je peux voir les réalités économiques que je voyais pas. Voilà, ça c'est l'histoire.
Alors les étudiants changent de tactique. Ils iront dans les usines manifester avec les ouvriers en grève. Sur la route de Billancourt, transistor en bandoulière, ils entendent le fameux « Cohn-Bendit connaît pas » de Georges Séguy. Et quand ils arrivent devant les portes de Renault, les délégués syndicaux s'interposent entre les étudiants et les ouvriers.
Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé.
Un ouvrier pour un étudiant, qu'est-ce que c'est?
Vous voyez, c'est un homme qui travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose, comme c'est un homme. Il a droit à travailler moins et à gagner plus. Cette nuit, par exemple, j'ai appris qu'il y a une très grosse inertie, à mon avis, dans la classe ouvrière, dont est responsable en partie. Les partis et les syndicats actuels sont quand même quelque chose d'assez statique.
Il n'y a pas un peu de romantisme révolutionnaire lorsqu'on est étudiant et que l'on vient regarder les ouvriers de Boulogne-Billancourt en grève?
Romantisme révolutionnaire pour certains, oui. Moi, je suis venu parce que je me sens solidaire de ces gens-là.
Alors, vous parlez assez longuement d'un parmi ceux qui n'a pas renoncé.
Oui.
C'est Guy Hockenheim.
Oui.
Vous citez longuement son bouquin, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Hein.
Oui.
Et c'est un bouquin d'une force et d'une drôlerie en plus, parce que c'est drôle, c'est par l'excès même, qu'on peut lire toujours, je veux dire, pour le plaisir, il y a une jubilation, et puis c'est d'une force et d'une violence extraordinaire. Et c'est pas seulement un livre de quelqu'un qui veut être fidèle à sa jeunesse, fut-elle folle, mais qui dénonce ce qu'il faut bien appeler une trahison.
Oui, et le livre est vraiment étonnant, parce que on pourrait dire que c'est presque unique à ce moment. Il est sorti en 85, je crois, et il est sorti dans un consensus presque total. Il n'y avait, et c'est pour ça peut-être la violence du livre, la violence rhétorique du livre vient peut-être de cette isolation qu'il a ressentie en voyant que la doxa était totale à ce moment. C'était pire qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que la France n'avait pas de Reagan ni de Thatcher.
On avait Mitterrand, c'est pas mal non plus.
On n'est pas toujours
en retard.
Oui, mais l'Allemagne et la France n'avaient pas de restructuration outre-conservatrice de l'économie pendant les années 80. Mmh. Mais quand même, vous avez raison, c'était une période très philo-américaine.
En introduction à votre bouquin, vous citez Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. On connaît le fameux choix qu'il fallait faire, c'est préférer avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Mais Raymond Aron écrit en 1968, « Je ne connais pas d'épisode de l'histoire de France qui me donne au même degré le sentiment de l'irrationnel. » Donc pour lui, c'est clair, c'est net, c'est un événement irrationnel.
Oui.
Il s'est rien passé, un rêve, un peu rimbaldien, hein, vous parlez de Rimbaud à certains moments. Voilà, bon. Et Sartre, à la même époque, dit, et c'est vous qui le citez, l'important c'est que l'action ait eu lieu, alors que tout le monde la jugeait impensable. Si elle a eu lieu, cette fois-ci, elle peut se reproduire. Oui. Ça c'est quand même encourageant. Ça rouvre cette petite phrase, une petite clé qui rouvre le champ du possible.
Oui, je voulais mettre ces deux phrases ensemble parce que dans la phrase d'Aron, on voit la panique un peu, la panique de l'élite. Et dans la phrase de Sartre, on voit, c'est d'après la phrase de Sartre que j'ai fait la décision de terminer mon livre avec les grèves de 95. Mm-hmm. Il n'y a pas de raison de revenir à l'ouverture qui était mai, si on ne sait pas de faire le lien avec les ouvertures du 21e siècle. On a l'intérêt, surtout dans le présent, sur le présent.
C'est-à-dire, voilà, ça c'est les vies, ce que vous appelez les vies ultérieures.
Oui.
Il n'y a pas seulement mai 68 et puis voilà, qui commence le début mai, qui finit fin mai. Il y a évidemment une suite. Et ces vies ultérieures, c'est à travers ces commémorations et cette façon de nier, d'effacer peu à peu et de donner raison à Raymond Aron. Et puis, un certain nombre d'événements que vous soulignez, notamment 95, Seattle. Vous parlez assez longuement aussi du Larzac.
Oui.
Et là, vous remettez en perspective ce qui s'est passé sur le Larzac à partir de 71, avec des mouvements paysans précédents qui datent des années 60, notamment le mouvement de Bernard Lambert, oui, sur les paysans. Donc vous essayez en permanence de voir une continuité, les vies ultérieures de mai 68, mais aussi les vies antérieures de mai 68.
Oui. Je voulais à la fois raconter la façon dont cette histoire officielle s'est établie, ce qui est une histoire des moments où le passé politique de mai devient visible ou devient invisible. C'est ça qui m'intéressait. Quels sont les moments où ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir du passé récent devient plutôt ouvert ou fermé. Mmh. Et je crois, par exemple, maintenant, c'est ça qui m'a intéressé chez le mouvement de 75. C'est que,
95.
Oui, 95. Ouais. Il n'y a pas de rapport d'analogie directe, mais c'est à travers ces nouveaux moments d'ouverture qu'on arrive à réencadrer 68 d'une nouvelle façon. Mmh. Alors, il y a aussi le mouvement intermondialiste de Seattle, Genoa. J'avais l'impression que pendant les années 90, que tout commençait à changer un peu. Le mouvement de la Confédération paysanne et tout ce mouvement autour de la nourriture, ça, je crois, ça a un lien assez direct à 68. Mmh. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que ce qui s'est passé en région était beaucoup plus important que ce qui s'est passé à Paris en 68. Mmh. Mmh. Et qu'il y avait des continuités, et, une politique qui existait plus longtemps en région. Mmh. Et on peut voir ça à travers le Larzac et jusqu'à aujourd'hui avec tout le mouvement contre l'agriculture modifiée génétiquement.
En tous les cas, pour vous, jusque-là, mai 68, c'est un passé confisqué, c'est, oui, une histoire ensevelie, dont, encore une fois, j'y insiste, la jeune génération est privée.
Oui.
Et qui la maintient, qui l'enfonce dans une certitude d'impuissance. Et que le monde tel qu'il est ne veut pas être différent que ce qu'il est.
Oui, 68 fait peur.
Tant mieux.
Oui, il fait peur.
Non mais tant mieux.
À l'élite, oui.
Oui, ce serait bien si c'était seulement à l'élite qu'il fasse peur, mais ça fait peur aussi dans la mesure où il y a tout ce que la trahison de 68 a imposé, impose aujourd'hui comme une évidence, c'est l'impuissance, même si 95 et puis différents mouvements que vous citez laissent un peu d'espoir.
Nous sommes venus dire un certain nombre de choses à ceux qui nous gouvernent. La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route en venant avec la marche de l'Ouest. Elle disait à ceux qui étaient auprès de nous, elle leur disait, nous allons à un mariage. Le mariage des ouvriers et des paysans, le mariage de l'Ypres et du Larzac. Au fond, toute cette marche nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un événement capital se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. Jamais plus Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais. Jamais plus ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé et nous le prouverons.
Bernard Lambert sur le Larzac en 1973 pour saluer Christine Ross et son livre Mai 68 et ses vies ultérieures. Mais merci à tous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Stéphane Devernel. L'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chaot, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Humbert. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37. On se retrouve demain pour Là-bas si j'y suis. Dans 33 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et son charivari. À demain 17h. Salut.